postule pour un premier emploi ou qu'il s'agisse d'une reconversion ou d'un poste convoité en fin de carrière, il n'est pas donné à tout le monde de réussir un entretien ou des entretiens d'embauche. Peut-être avez-vous une trentaine de diplômes en poche, mais impossible de vous mettre en valeur sur un CV ou bien en face de votre employeur potentiel. Comment parfois ne pas craquer ou blêmir? Comment se mettre au fond en valeur pour trouver un emploi? Eh bien, c'est tout simplement la question que nous allons nous poser tout simplement ce matin dans Enquête de Sens. Marie-Ange, pour vous servir, c'est parti. Et j'ai la joie de recevoir mes deux invités du jour. Noémie Lemaine, bonjour madame.
Bonjour.
Vous qui êtes psychologue du travail, fondatrice d'Upchange Conseil et Coaching. Votre dernier livre paru « Libérez-vous des réflexes sexistes au travail » chez Interédition. Et puis Fabien Sécher, bonjour Fabien.
Bonjour.
Vous qui êtes porte-parole de Jobs Facts Make Sense. Oula, c'est le matin, j'ai pas pris de café, ça se voit. Le premier site d'emploi Impact, c'est positif. Jobs Facts Make Sense, je vais y arriver.
C'est toujours un exercice d'addiction.
Oui, un peu. Faut que je fasse gaffe avant mon prochain entretien. Bref, en tout cas, Noémie Lemaine, Fabien Sécher, vous avez 52 minutes. Alors, c'est vrai que comment se mettre en valeur pour trouver un emploi? On a l'impression qu'il y a toujours ceux qui gagnent toujours... la course d'obstacles, au fond, avant le poste, sans convoiter. Et puis, il y en a qui rament. Ça, c'est dû à quoi, la psychologue que vous êtes, Noémie Lemaine, qu'on soit... Il y a une question de nature là-dedans ou pas? Bien se vendre, c'est une question de nature pour commencer l'émission ou pas?
Eh bien, en fait, je dirais qu'il y a de la technique, puisque bien se vendre, c'est une question de compétence commerciale, parce qu'il faut se vendre. Donc, il y a des gens qui le sont naturellement, et puis, il y en a d'autres qui, il faut davantage l'apprendre. Donc, c'est pour ça que je résume ça à une question quand même de technique. Parce qu'on est en train de vendre sa personnalité, ses compétences et son projet.
Alors, il va y avoir des auditeurs, pas pour du tout, qui vont dire « Mais quand même, quel scandale sur Radio Notre-Dame, Radio Chrétienne, se vendre, Madame de Montesquieu, dites donc, là, vous y allez un peu fort, se vendre. » Pourquoi on dit qu'on a besoin de se vendre? On a besoin
Madame,
de se vendre.
Madame de Montesquieu, elle ne travaille pas gratuitement non plus.
Bah, non, effectivement. On n'a rien sans rien. Eh bien, c'est cher. Déjà, est-ce que c'est mal parti de dire se vendre? Est-ce qu'on ne pourrait pas dire autre chose? C'est vrai que se mettre en valeur ou bien se...
Moi, je pense que ça dépend vraiment effectivement des personnalités. Il y a des personnes qui ont ce tempérament un peu commercial et qui sont capables de se vendre et du coup, qui vont tirer bénéfice de ça, qui vont réussir. Et puis, moi, par exemple, ce n'est pas du tout mon cas. Je suis absolument pas commercial, je sais pas faire.
Bah moi non
et
bah plus.
Du coup, je vais peut-être plus travailler pour préparer un entretien, mais plus sur ma conviction, être moi convaincu que cet entretien vaut le coup et que le job auquel je postule vaut le coup. Et du coup, si je suis convaincu moi-même, je vais être convaincant. Et vraiment, peut-être plus travailler que quelqu'un qui naturellement saurait se vendre, mais je ne crois pas qu'on parte forcément à armes inégales en entretien. On va juste tirer parti différemment de nos personnalités.
Alors, évidemment, on va parler des entretiens d'embauche du début de la vie professionnelle et de la fin et du milieu, parce que voilà, il y a différentes postures, j'imagine, à adopter. On a différentes expériences qu'on a engrangées, évidemment, quand on arrive à la fin de sa carrière et qu'on n'a pas forcément qu'on a au début. Alors, peut-être parfois pour les parents qui nous écoutent ce matin, qui ont des grands jeunes, des jeunes professionnels encore un peu à la maison. Alors, ça fait partie des stress. Est-ce qu'il va réussir à trouver un boulot? Comment il va faire pour avoir son stage? Commençons par le commencement, Noémie Lemaine. Qu'est-ce qu'on fait quand c'est vrai? On a très peu de diplômes, très peu surtout d'expérience professionnelle. Qu'est-ce qu'on met en valeur à ce moment-là? Comment est-ce qu'on fait pour se préparer? C'est pas facile.
Ben, on a plein de choses à offrir, puisqu'on a offert un nombre d'années important et un potentiel immense.
Ouais.
Donc, il faut vendre son enthousiasme, sa personnalité, ses idées, et puis on a fait des choses. De toute façon, on a fait des choses.
C'est-à-dire
on a tiré
toujours
des compétences.
Ouais.
Eh bien, on a travaillé l'été, on a fait souvent des petits boulots, on a des centres d'intérêt, on a un projet. Et puis, on peut être capable de démontrer qu'on sait apprendre. Parce que quand on est jeune, on est étudiant, on vend aussi sa capacité à s'adapter, à apprendre. Et on cherche aussi beaucoup aujourd'hui des gens capables d'évoluer et d'apprendre, puisqu'on sait qu'on ne va plus rester 20 ans, 10 ans, parfois même 5 ans dans la même fonction. On va chercher des gens agiles, capables de se transformer ou en tout cas d'évoluer.
Quelles sont les qualités requises, l'un et l'autre, Fabien Sécher? Qu'est-ce qu'on attend dans tous les cas, dans tous les postes, quand on est employeur, par exemple, d'un jeune qui soit donc adaptable. J'ai entendu ça d'abord de la bouche de Noémie.
Moi, je dirais de l'envie aussi, vraiment, de l'envie,
premier,
de la motivation.
Ouais,
c'est la motivation. On parle d'entretien de motivation, c'est vraiment ça. C'est montrer qu'on a envie, qu'on est curieux. Je pense que c'est très important de préparer son entretien, d'arriver avec des questions, d'arriver avec des propositions aussi, même si on n'a pas encore travaillé, de se dire, bah voilà, moi, de se projeter. Moi, si j'étais dans ce poste, voilà ce que je ferais.
C'est important, c'est intéressant.
Et je trouve que c'est quelque chose qu'on ne fait pas systématiquement et du coup, qui peut nous permettre de nous démarquer. Là, encore une fois, si on revient sur le savoir-être, est-ce que j'ai plutôt une fibre, être capable de me vendre ou pas, bah là, typiquement, il n'y a pas besoin d'être capable de se vendre. C'est juste de dire, bah, moi, je me suis projeté et voilà ce que j'aimerais faire si j'étais en poste.
Parce que c'est vrai que, alors là, je m'adresse encore une fois à la psy que vous êtes, Noémie Neumann, mais c'est vrai que parfois, quand on a un tempérament pas forcément très confiant, enfin, vous voyez, pas très sûr de lui... Ça peut être très pénible des espèces de surenchérir sur des, enfin insister sur des espèces de qualités, d'expériences qu'on a. Oui, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça. Qu'est-ce que vous conseillez un petit peu ?
Ben moi, je conseille d'être soi-même, au mieux de soi-même. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de vendre un personnage, jamais, pour la bonne raison que le vernis va craquer un moment ou un autre et on va pas pouvoir passer le reste de sa vie professionnelle à faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Ça va pas fonctionner.
D'accord.
Donc, être soi-même, au mieux de soi-même. Si on est quelqu'un d'un petit peu plus introverti, on a les qualités qui vont avec aussi.
Ah ah, intéressant.
Donc ça veut dire qu'on va pouvoir analyser les choses, on va savoir observer, on sait prendre du recul, on s'emporte peut-être pas aussi facilement que quelqu'un qui est peut-être plus enthousiaste.
Et ça, ils savent le voir, les employeurs ?
Eh bien, quand on fait du recrutement, on sait repérer les différences personnalités. Et c'est important de ne pas mettre dans une équipe que le même type de personnalité. Parce que
des leaders, des commerciaux.
Oui, il faut des gens différents. C'est important, la variété des personnalités, de même que la diversité des gens. Ça crée de la richesse.
Alors, qu'est-ce qu'il faut surtout pas faire ? Donc, on a nos petits parents qui nous écoutent ce matin. Là, on s'occupe des jeunes pour commencer. Qu'est-ce qu'il faut surtout pas faire ? Parce qu'il y a aussi, on entend que la génération Z aime bien se mettre en valeur et dire ce qu'elle sait pour commencer. Alors que nous, notre génération, c'était plutôt le contraire, hein, je crois, Noémie. Alors vous êtes entre les deux, vous êtes plutôt très jeune.
J'ai 40 ans.
Ah bon, je suis pas très jeune. Vous êtes tellement jeune que vous avez 15 ans de moins, mais ça fait rien. Fabien Sécher, qu'est-ce qu'il faut surtout pas faire ? Qu'est-ce que vous déconseillez formellement pour les nouveaux ?
Ça va paraître très simple, mais ne pas mentir. Et vous le disiez,
c'est une tentation, n'empêche. Hein.
C'est une tentation. Ne pas gonfler son CV, ne pas se suradapter en se disant il faut absolument que je décroche ce poste alors qu'il ne vous convient pas. Donc ça, c'est super important de se dire bah, tant pis, c'est pas grave de rater un entretien. Ça arrive à tout le monde. Et si vous vous rendez compte pendant l'entretien, il faut quand même avoir en tête que c'est dans les deux sens l'entretien. Donc si la personne qui vous recrute ne vous séduit pas quelque part ou ne vous convainc pas, bah c'est pas grave, c'est que c'est pas la bonne entreprise. Donc ne pas mentir et ne pas se mentir à soi-même non plus pendant l'entretien.
Comment on prépare, Noémie ?
Ce qui est important quand on prépare, c'est de bien savoir qui on est et ce qu'on souhaite. C'est-à-dire quelles sont les compétences qu'on veut exercer, quel est le projet que l'on veut atteindre et qu'est-ce qu'on veut faire de soi et de son avenir professionnel. Donc il faut savoir parler de soi.
C'est pas facile.
Parler de soi, bon, on peut s'entraîner. Hein. C'est-à-dire qu'on va faire des entraînements déjà. On va dérouler son CV. C'est important de dire qui on est en déroulant son CV, en s'adaptant aux demandes de son interlocuteur. Moi, j'accompagne des gens en outplacement. Je leur dis toujours, demandez ce qu'ils veulent de vous. Ça va être la meilleure manière de...
Ça, on peut le faire, alors.
Bien sûr. Vous voulez que je me présente comment ? En 3 minutes ou en 10 minutes ? Ou en une demi-heure ?
D'accord.
L'autre va vous dire ce qu'il attend. Donc, ça va être beaucoup plus simple de correspondre aux attentes de l'autre. Vous voulez que je commence par le plus ancien ou par le plus récent ? Est-ce qu'il y a une expérience qui vous intéresse plus particulièrement dans mon CV ? Et on entame le dialogue.
Commencez par des questions intéressantes, ça, comme piste.
On entame le dialogue. Mmh. Et comme vous disiez fort justement, le choix est réciproque. On n'est pas dans une posture où on est là à mendier un job, surtout qu'on en reparlera, hein, le rapport de force a changé.
D'accord.
On est là pour faire une offre de ses compétences et voir si, ensemble, ça peut fonctionner. Donc ça veut dire qu'on est là aussi pour poser des questions à l'entreprise, à son recruteur, concernant ses attentes. Qu'est-ce que vous attendez de ce poste? Quelles sont les difficultés de ce poste?
Là, c'est pas au début. Au début, donc, si j'ai bien compris,
au début, on demande à l'autre
qu'est-ce qu'il attend.
Comment vous voulez que je me présente?
Voilà, on se présente.
On se présente.
Et deuxième partie,
on pose des questions.
On pose des questions sur le job en lui-même, quoi.
Mais oui.
Et ça, faut s'entraîner parce que c'est pas forcément un truc.
Ça faut s'entraîner. On peut s'entraîner avec des professionnels ou alors on peut s'entraîner au pire même seul devant son miroir, poser des questions, apprendre à parler, à poser sa voix, à dérouler son CV. On peut s'enregistrer, on peut s'écouter.
Surtout avec nos caméras, c'est facile à faire en plus.
On peut le faire et plus on le fait, meilleur on est forcément puisque on se rend plus fluide.
Entraînement, comme d'habitude.
Entraînement, comme d'habitude.
95% d'effort.
Exactement.
N'est-ce pas, Fabien ?
Ouais, et on peut s'entraîner aussi avec des personnes qu'on connaît, parce que l'exercice est 10 fois plus dur, je pense, avec quelqu'un qu'on connaît qu'avec l'inconnu qu'on va avoir face à soi en entretien. Et du coup, bah, on est sûr qu'on est bien préparé si on teste avec quelqu'un qu'on connaît.
Ouais.
Et effectivement, la phase de préparation est super importante. Il faut aussi bien se renseigner sur l'entreprise, l'association qu'on va essayer de rejoindre.
C'est vrai que ça fait souvent défaut.
Ouais. Et vous parliez de la génération Z, c'est vrai que parfois, bah, on peut venir un peu les mains dans les poches. Je pense que c'est l'autre écueil à éviter absolument. Il faut vraiment avoir préparé ses questions, avoir des propositions aussi, avoir regardé précisément les attentes sur la fiche de poste. Sur la fiche de poste, vous n'allez pas répondre à 100% des attentes, et c'est normal, parce que sinon, d'abord, vous vous ennuieriez dans votre travail, donc ça ne marcherait pas. Donc, par contre, vous allez pouvoir insister sur les 50, 60, 70% de points sur lesquels vous estimez que vous avez les compétences, en ayant des exemples précis de bah, « voilà, moi j'ai telle compétence, mon point fort c'est ça, voilà les exemples de réalisation que j'ai fait ». Là, c'est pour quelqu'un qui est par exemple en reconversion, qui a déjà eu une expérience professionnelle.
On va en parler tout à l'heure.
Pour quelqu'un qui n'a pas encore d'expérience professionnelle, bah, c'est essayer de dire bah, sur la gestion de projet, si j'ai travaillé dans une association, si j'ai fait des jobs d'été, même dans ma vie perso ou dans des travaux de groupe à l'école, et ben voilà ce que j'ai fait, ce que j'ai mis en œuvre, qui montre un petit peu que je sais gérer un projet.
Ouais, parlons un peu d'actualité, sinon je vais me faire gronder également. Le phénomène surtout des vingtenaires, hein, qui quittent leur job au bout d'un jour, d'un mois, de quelques semaines ou de quelques mois. Est-ce que ça fait évidemment très peur, j'imagine, Noémie Lemann, qu'est-ce que vous observez? Enfin, l'un et l'autre, d'ailleurs, pourrait répondre à cette question. Ça, c'est quand même quelque chose qu'essayent de percevoir les employeurs, parfois peut-être avec difficulté. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau là-dessus qu'on peut, quand on veut un petit peu s'engager à plus long terme, qu'on peut mettre en valeur aussi quand on est...
Oui, en fait, c'est vrai qu'il se passe quelque chose de nouveau sur le marché. C'est qu'aujourd'hui, le rapport de force est inversé. C'est plus compliqué de fidéliser les talents. Il y a une chasse aux talents, en fait.
Et hein. Oui.
Et selon, effectivement, les âges, on voit qu'il va y avoir des jeunes qui vont être peut-être moins persévérants ou qui vont moins résister à la frustration ou qui veulent avoir un peu tout de suite. C'est un petit peu ce qu'on reproche à cette génération-là, de vouloir d'emblée le poste de manager ou de vouloir d'emblée une augmentation alors qu'ils sont là depuis 6 mois. Enfin, de réclamer beaucoup de choses parce que c'est un peu, pour certains, on va dire que certains pourraient avoir des comportements dits un petit peu d'enfants gâtés. Mais pas tous. Il ne faut pas caricaturer non plus, hein, parce qu'il y a énormément de jeunes qui rament, qui sont courageux, qui veulent travailler. Il ne faut pas que ce petit phénomène jette le discrédit sur toute une génération, alors que ce n'est pas le cas. Il faut se méfier de ces caricatures-là.
Pardon, je voulais que vous alliez
continuer. Non, si on voit le côté positif, effectivement, de tout ça, c'est qu'il y a une nouvelle exigence qui est aussi autour du sens qu'on donne au travail. Ce qu'on voit énormément, c'est le souhait d'avoir un impact social et environnemental positif dans son travail, par son travail. Et ça, c'est une super nouvelle, parce que d'abord, il y a énormément de structures qui recrutent avec beaucoup de sens à donner. Donc, je parlais des associations tout à l'heure. Il y a énormément d'associations qui recrutent, il y a des startups qui créent des super produits avec un impact environnemental positif ou social positif. Et ça, c'est une super nouvelle. Et je trouve que cette exigence, je suis pas sûr qu'elle soit purement générationnelle. Peut-être que les jeunes sont encore plus exigeants, mais tout le monde commence à prendre conscience qu'en fait, il faut avoir un job qui est aligné avec ses valeurs. Et pour revenir sur le sujet du débat aujourd'hui, ben, c'est aussi une bonne façon d'être bon en entretien, c'est d'être convaincu, d'être aligné avec ses valeurs personnelles, de se dire, ben, en fait, si c'est quelque chose en quoi je crois, si le poste auquel je postule, j'y crois vraiment, ben là, vous avez toutes les chances d'être brillant ou brillante en entretien.
Ouais, et de l'autre côté, avant que nous nous séparions quelques instants, de l'autre côté, Noémie Lemaine, est-ce que vous pourriez nous confier, nous dire en vrai, de vrai, de vrai, qu'est-ce qu'on aime recruter, au fond, des gens qui nous ressemblent, des jeunes, pour, là, on parle des jeunes pour l'instant, on parlera des moins jeunes après, mais on se demande toujours, on a envie d'être une petite souris de l'autre côté pour savoir...
Ce qu'on veut recruter, en général, c'est une solution. On a un besoin, on veut une solution. On veut quelqu'un qui corresponde à notre besoin. Voilà, c'est une solution. Donc, quand on se présente à un entretien et qu'on veut le job, c'est pour ça qu'il faut être soi-même au mieux de soi-même, mais montrer qu'on est en forme, qu'on est là pour aider, pour participer, pour apporter sa valeur ajoutée, pas pour apporter ses problèmes ou son mal-être. Hein, donc, on arrive le plus participatif et en forme possible, puisque l'autre veut une solution.
Oui, tout simplement. Eh bien, écoutez, ça a le mérite d'être clair. Juste avant que nous nous retrouvions dans quelques secondes, juste après cette page en couleur, s'il vous plaît. À tout de suite.
Tout doux, Vincent Bellotti.
Un guitariste de blues qui chante dans la langue de Molière, c'est pas si fréquent, et c'est le cas de Rod Barthet. Des textes et des rythmes bourrés d'énergie, on aura l'occasion de le découvrir avec À l'ombre des sycomores, son nouvel album écrit avec Boris Bergman, le parolier d'un certain Alain Bachung.
Tout doux, c'est ce mardi à 18h30.
À tous les prêtres et religieuses tués dans l'année, l'aide à l'Église en détresse veut rendre un hommage particulier lors d'une veillée de prière, la nuit des témoins. Cette année, nos témoins viennent du Tchad, de Birmanie et d'Haïti. Alors retrouvons-nous le vendredi 27 janvier à 20h à l'église Saint-Sulpice. Venez porter par votre présence les chrétiens dans le monde qui ne peuvent pas vivre librement leur foi. Ils sont plus de 250 millions. Venez prier avec eux et pour eux. Venez à la nuit des témoins. Renseignements sur www.aed-france.org.
Radio Notre-Dame, les auditeurs ont la parole.
C'est essentiel de faire un don à Radio Notre-Dame, comme on fait un don à ses plus proches amis, pour pouvoir les maintenir vivants et leur donner la capacité de se développer. Radio Notre-Dame n'est vendue à personne, et donc par conséquent, il est le reflet de ce que nous en attendons. Et donc il est essentiel de s'y investir, de s'y impliquer.
Pour soutenir Radio Notre-Dame, envoyez vos dons au 6 boulevard Edgar Quinet, Paris 14e, ou rendez-vous sur www.radionotredame.com. Merci.
En quête de sens, Marie-Ange de Montesquieu.
Comment se mettre en valeur pour trouver un emploi? Noémie Lemaine est avec nous ce matin, psychologue du travail, fondatrice d'UpChange Conseil et Coaching. Fabien Sécher, porte-parole de Jobs That Make Sense, le premier site d'emploi impact positif, pour redonner un petit peu de sens, voire pour trouver un job qui a du sens, ou simplement, Dieu sait qu'on peut en trouver aujourd'hui, c'est ce qu'on avait dit ensemble la dernière fois, tout est dans la vision des choses, le regard qu'on porte au monde qui nous entoure, on le voit souvent dans Quête de Sens, dans cette émission quotidienne de 9 à 10. Noémie Lemaine, Fabien Sécher, là, maintenant que j'ai mon job, les années passent, etc., est-ce qu'aujourd'hui, toujours à la lumière de cette époque qui est la nôtre, changer de poste très régulièrement avant d'attaquer la reconversion, est-ce mal vu, beaucoup mieux vu? On dit certains, en préparant l'émission, j'ai pu voir à quel point c'était très très partagé au niveau des visions, des opinions des uns et des autres. Fabien Sécher, est-ce que c'est si mal que ça? Est-ce qu'au contraire, c'est une marque de richesse d'expérience? Est-ce qu'au contraire, ça fait zapping? Ça fait papillon, petit papillon qui s'envole toutes les quatre matins vers autre chose?
Bah déjà, ça devient très commun, en fait.
Donc, très commun.
C'est de moins en moins mal vu, puisqu'on a de plus en plus de gens qui se reconvertissent. Et non, c'est pas, ça ne fait pas zapper. Alors, il faut savoir expliquer les transitions, en fait.
Ça fait partie des choses à faire. Avant
exactement. Si vous avez une certaine expérience et que vous avez enchaîné pas mal de postes, il faut expliquer la cohérence à chaque fois, ce que vous avez appris, pourquoi vous avez changé, en étant toujours positif. C'est-à-dire, vous allez éviter de dire « j'ai changé parce que le boss était, était
toxique,
horrible,
toxique ». Ne surtout jamais dire ça. Hein.
Voilà,
sur les parents
éviter de dire ça et plutôt... bah, si vous n'avez pas trop de justifications, vous allez passer un peu plus vite sur cette partie-là, mais toujours essayer de trouver du positif parce que vous vouliez développer telle compétence que vous ne pouviez pas forcément le faire dans votre ancien job et que du coup, vous avez changé.
Ouais. Important, ça.
C'est surtout ça, hein. Pour moi, c'est savoir expliquer les transitions. Ouais. Et après, tout s'explique. Moi, je pense que tout s'explique.
Oh, ouais, alors quand c'est un problème de personnalité, peut-être se faire un petit peu accompagner, Noémie Le Maine.
Il faut apprendre à raconter la bonne histoire, aussi vraie que possible. Mm-hmm. Aussi vraie que possible. Hein. C'est-à-dire qu'on ne raconte pas des mensonges, jamais. Vous avez complètement raison, Fabien. On ne raconte pas des choses fausses parce que au-delà de l'éthique, c'est le meilleur moyen de créer le doute, la suspicion. Et la perte de confiance.
J'ai déjà menti, mais c'est vrai que ça sert à rien en fait.
Mais ça dépend sur quoi. Si c'est sur des petits raccords de date ou des petites choses comme ça. Si c'est sur des détails.
Un mensonge de finesse.
Comment est-ce qu'on fait à propos des dates? Cette question, je voulais vous poser tout à l'heure. Comment est-ce qu'on fait pour parler des trous? Vous voyez ce que je veux dire? Quand on a des trous, on a été, je sais pas, au chômage pendant 8 mois, un an. Qu'est-ce qu'on... L'un et l'autre, vous avez des conseils à donner ou pas?
Moi, je pense que pareil, ça s'explique.
Faut en parler.
Ça s'explique. Faut accepter d'en parler. Alors, vous n'êtes pas obligé. Si vous n'êtes pas super à l'aise là-dessus, vous n'êtes pas obligé d'amener le sujet sur le tapis vous-même. Mais je pense que c'est quand même mieux d'être proactif là-dessus et de dire, moi, je me suis arrêté un an parce que, j'ai fondé une famille, et du coup, j'avais besoin.
Mais quand il y a rien de tout ça.
Parce que je me posais des questions et du coup, j'ai pris le temps de trouver le bon job. Ouais, dire ce que vous avez fait. Il y a forcément des choses positives. Si encore une fois, vous avez pu vous engager dans le bénévolat, Proust. Vous avez pu lire, c'est super. C'est super. Vous avez pu prendre du temps pour vous. Et je pense que de plus en plus aussi, ça doit s'accepter, en fait.
Dans les fameuses.
De prendre du temps, de faire des pauses. Et je pense qu'un employeur doit être capable, encore une fois, c'est toujours l'idée du bon match, doit être capable de se dire. Si la personne a pris un an de pause avant, elle va être super motivée en revenant, là, elle va être en forme, quoi.
Ouais, c'est comme ça qu'on voit les choses. En vérité, Noémie Le Maine,
je suis un peu positif,
vous avez le droit de ne pas être d'accord. Hein. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Qu'est-ce qu'on fait avec les trous?
Alors,
le Proust, il se fiche de moi, Guillaume, derrière la vitre.
Je suis d'accord avec Fabien, et je préconise ça aussi, sur l'idée que s'il y a quelque chose qui gêne, il faut en parler tout de suite.
Ah, d'accord.
S'il y a quelque chose avec lequel on n'est pas à l'aise, et là, il faut apprendre à travailler son texte, à raconter l'histoire. Parce que, et à partir du moment c'est dit, ça y est, c'est dit. J'ai quitté cette entreprise, j'ai demandé à partir parce que j'appréciais pas le style de management de l'entreprise qui était très, très difficile à vivre pour moi. Je préfère les managements participatifs.
Dire
très
pour difficile. Moi.
Et voilà. Donc, j'ai préféré. Donc, c'est dit. C'est-à-dire qu'on a le droit de choisir son job, de choisir le climat d'entreprise et de se renseigner.
Et ça dit quelque chose sur votre personnalité.
Dit quelque chose sur votre personnalité. Et ça dit aussi que vous dites les choses. On préfère toujours quelqu'un qui dit les choses plutôt que quelqu'un qui dissimule. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on dit ça, on s'est quitté parce que j'étais pas en phase avec la culture de l'entreprise. Mmh. Je m'en suis bien rendu compte et je peux pas fonctionner dans un univers où le style de management, moi, me paraît difficile pour moi. Voilà, c'est difficile
important.
Pour moi.
Ouais. Faut bien, ça, je crois que c'est un mode de communication non violent.
Pour moi, c'est difficile. Ça ne veut pas dire que mon manager est un manager toxique.
Surtout pas dire ça. Hein.
Ou un pervers narcissique. J'ai pas dit ça du tout. On parle pas de ça. Pour moi, ce style de management, c'est difficile. Mm. Pour les autres, il y a des agents à qui ça plaît parce qu'ils ont besoin d'être structurés, d'avoir vraiment un management, un micro-management. Moi, je préfère avoir plus d'autonomie.
Alors, je veux redonner du sens à ma nouvelle vie, à mon nouveau travail. Comment je raconte ça, Fabien Sécher, en quelques secondes? Alors, c'est pas facile, mais en gros, quelles sont les petites astuces à avoir, le fil rouge de ce récit, comme le vient de le préciser Noémie Le Maine, raconter une nouvelle histoire?
Je pense qu'il faut être assez précis sur ce qu'on met justement derrière cette notion de sens et arriver pas en disant je me pose des questions, je suis paumé, je veux donner plus de sens, parce que là, ça va pas trop donner envie. Hein. Mais plutôt, vous parliez tout à l'heure d'arriver avec des solutions, plutôt arriver avec des solutions en disant moi je me suis posé cette question de sens, c'est peut-être pour ça qu'il y a eu un trou dans ma carrière d'ailleurs, parce que j'ai eu besoin de temps pour me poser ces questions-là, et maintenant aujourd'hui je veux contribuer de telle manière et telle manière, et c'est pour ça que je suis devant vous aujourd'hui. Et de montrer aussi en quoi on a fait déjà une part du chemin. C'est-à-dire que nous, ce qu'on dit souvent pour les personnes qui veulent se reconvertir dans des carrières à impact social ou environnemental positif, bah, c'est de tester dans de l'associatif, de se former. Et je ne parle pas forcément de formation payante. Il y a plein de formations gratuites, par exemple sur le climat, sur l'UNCC Learn, qui est le site de l'ONU. Bah, il y a plein de formations gratuites où vous pouvez apprendre, développer vos compétences et bah, montrer que vous avez décidé de contribuer de telle manière aujourd'hui et de donner du sens à votre carrière de telle manière. Et voilà ce que vous avez fait pour entamer cette reconversion. Vous n'êtes peut-être pas encore au bout et vous aurez besoin d'apprendre dans la future entreprise, mais vous montrez que vous avez déjà fait une partie du chemin.
Ouais, qu'est-ce qui me prouve que vous n'allez pas vous planter? Ça, c'est une question qu'on peut peut-être vous poser. À ce moment-là, on répond quoi? On dit, bah, écoutez, j'en sais rien, mais...
Je ne sais pas si on dit j'en sais rien. En tout cas, enfin oui, c'est parce qu'il faut être, honnête. Donc
non,
dire,
moi, j'en
bah,
sais rien, ce qu'il faut dire.
Non, mais je ne sais pas non plus. Là, pour le coup, j'ai pas la réponse. Moi, je dirais effectivement, bah moi, c'est ça qui me motive. Et voilà en quoi je sais que c'est ça qui me motive. Et parler vraiment de son système de valeurs, de sens et tout ça. Et dire, bah voilà maintenant comment je veux contribuer. Après, de toute façon, sur est-ce que c'est la bonne option? Même si ce n'est pas une reconversion professionnelle, on ne sait pas si c'est la bonne entreprise dans laquelle on va. Et c'est pour ça qu'on zappe aussi et qu'on peut rester plus ou moins longtemps.
Pour nos amis qui nous écoutent ce matin et qui ont traversé malheureusement pour eux, et peut-être heureusement pour la suite, ce qui les attend après ce tunnel, le burn-out. Noémie Lemaine, il y en a beaucoup, 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 beaucoup. C'est pour ça que je me permets de m'arrêter quelques secondes là-dessus. Avec vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut dire ce mot? Est-ce qu'il faut dire autre chose? Est-ce qu'il faut dire, comme le précisait notre ami Fabien à l'instant, dire bah ça m'a permis, ce temps m'a été nécessaire pour réfléchir. Qu'est-ce qu'il faut faire?
C'est vrai qu'il faut parler d'emblée des sujets qui pourraient gêner le déroulement de l'entretien. Donc, si on a fait une pause pour des raisons de santé, on peut simplement dire je suis très investi dans mon travail, j'ai tendance à aller au bout de moi-même, et là, j'ai été très fatiguée, donc j'ai pris une pause pour m'arrêter. Le mot burn-out peut faire peur.
Oui.
Hein? Pourquoi? Parce que le burn-out, c'est un continuum entre le coup de fatigue et le véritable burn-out dont on peut prendre. Qui peut prendre 6 mois, voire 2 ans à se rétablir. Donc ça peut être
très engageant.
Ça peut être compliqué pour l'autre qui recherche une solution.
Oui, toujours se dire ça. Hein,
l'autre recherche une solution, donc il a envie de quelqu'un prêt à s'investir et à donner le meilleur de lui-même et à porter son énergie et ses compétences. Donc, si quelqu'un arrive disant d'emblée qu'il est en manque d'énergie, il correspond moins à une solution.
Oui, en effet. Ça, c'est important de le préciser. Toujours ce fil rouge de la solution. Effectivement, pour alors, le burn-out, c'est vrai que ce mot, et en plus, c'est même pas un mot français, donc il y a plein de fantasmes autour de ce mot, peut-être pour le côté employeur. Peut-être y a-t-il des mots magiques aussi, Fabien Suérer, pour que la reconversion se passe bien dans le cas d'une... Et même pour lancer un business nous-mêmes, d'ailleurs. Hein. Il y a aussi se vendre auprès... Bon, ça, c'est autre chose. C'est peut-être un autre sujet. Mais d'une manière générale, il y a des mots magiques, des choses qu'il faut mettre en valeur particulièrement reconversion, par exemple.
Ouais, je ne sais pas si c'est des mots forcément magiques, mais montrer qu'on est enthousiaste, montrer que...
Même si on n'a aucune expérience dans le nouveau job.
Même si on n'a aucune expérience. Si vous n'avez aucune expérience, bon là, l'exemple va être un peu plus difficile.
Oui, on est d'accord.
Vous ne m'aidez pas. Mais, les compétences transférables, c'est-à-dire que vous avez appris dans votre métier de la gestion de projet, par exemple, vous avez développé certaines compétences, qu'elles soient techniques ou comportementales, que vous allez pouvoir utiliser dans votre futur métier. Et c'est ça qui est important et c'est difficile, hein, et vous pouvez vous faire accompagner là-dessus, sur comment justement j'identifie ces compétences transférables, j'ai des exemples, et je sais comment je vais les transférer dans mon futur métier.
Ça, c'est important. Là, nous abordons un point essentiel qui est là, effectivement, toujours pareil, hein, raconter la bonne histoire et essayer de effectivement faire des rapprochements de compétences entre ce qu'il fallait avant et à quoi ça va servir après, Noémie Lemaine.
C'est vrai que c'est important. Moi, je préconise dans ces cas de faire un CV de compétences. C'est-à-dire qu'on fait un travail pour extraire du CV les compétences. Ça peut être management de projet, ça peut être gestion finance, ça peut être marketing. Et dans chaque rubrique, de renseigner ce qui a été fait en l'argumentant autant que possible avec des chiffres, en le mesurant, et à faire une chrono qui peut être courte. Parce que l'autre en face, qu'est-ce qu'il veut? Il veut ça, il veut savoir ce que vous savez faire. Et ces compétences-là, oui, elles sont transférables. Moi, je me souviens d'un cas que j'avais eu de quelqu'un qui était éleveur de poissons.
Ouais.
Dans une filiale de Sanofi qui était en train de faire un plan social, donc qui élevait des poissons exotiques, donc qui était un ingénieur qui avait la formation aquagriculture et qui donc vient se faire accompagner pour rechercher un job. Eh bien, il est devenu directeur d'usine, d'une usine de poissons. Comment on a fait ? On a tout démonté, on a travaillé tous les deux. Qu'est-ce qu'il savait faire ? Qu'est-ce qu'il savait produire ? Produire du vivant, c'est compliqué. Comment est-ce qu'on fait ? Quelles sont les difficultés qu'on lève ? Et on a travaillé tous les entretiens, etc. On n'avait pas forcément pensé à ce projet-là, d'ailleurs, hein, mais on avait décortiqué les différentes expériences. Et ensuite, on avait fait donc, ce que j'appelle les approches directes, autrement dit, des candidatures spontanées. Parce que chercher un job, c'est aussi, c'est pas se contenter de répondre à des annonces, ça correspond à 10-15% du job. Chercher un job, c'est d'aller chercher un job. Mmh. C'est d'être en approche directe, de repérer, d'envoyer, d'écrire directement aux gens, de susciter de l'intérêt. Il a suscité l'intérêt, il a rencontré, il a montré qu'il connaissait bien le produit, et puis qu'il avait d'autres qualités, et ça a super bien marché.
J'en ai pas du tout parlé, mais à tort, vous avez raison Noémie, il ne faut pas hésiter encore aujourd'hui, et peut-être même... ô combien aujourd'hui, Fabien Sécher, à faire de la candidature spontanée.
Ouais.
Ça, c'est ce que vous recommandez aussi ?
Surtout dans le cadre d'une reconversion où, effectivement, on ne va pas trouver forcément les jobs qui correspondent pile poil à ce qu'on imagine. Par contre, on peut identifier des secteurs d'activité qui nous intéressent et aller se renseigner, poser des candidatures spontanées, rencontrer des gens, discuter aussi avec des personnes qui nous inspirent et où on se dit, tiens, j'aimerais bien ressembler à cette personne, faire un petit peu avoir la même trajectoire, des gens qui se sont reconvertis, par exemple. Et là, de fil en aiguille, vous allez pouvoir identifier des structures qui recrutent, qui n'ont pas forcément posté d'annonce. Je pense que la candidature spontanée, c'est d'autant plus vrai quand on est sur des, avec plus d'expérience, parce que plus on est expérimenté, moins les offres sont on market, excusez-moi de l'anglicisme, il y a moins d'annonces en fait pour des postes de top management, et ça se passe plus sur de la connaissance et de la candidature spontanée. Donc oui, il ne faut surtout pas hésiter. Et en fait, encore une fois, nous, dans le secteur qu'on accompagne, il y a beaucoup de petites structures qui n'ont pas forcément exprimé un besoin. Mais si vous arrivez avec des solutions, comme vous le disiez tout à l'heure, si vous arrivez avec des solutions, ça peut faire un déclic en disant « Ah oui, c'est vrai, je n'avais pas prévu de recruter dès maintenant sur ce poste-là, mais pourquoi pas, il y a une opportunité, et du coup, je vais peut-être modifier un petit peu mon plan de recrutement par rapport à ça. » Je ne dis pas que ça se passe dans 100% des cas. Faut pas non plus rêver. C'est compliqué, les candidatures spontanées, parce que vous allez en envoyer plein et vous n'allez pas avoir beaucoup de réponses. Donc ça peut être décevant, mais comme un entretien d'ailleurs. Et de toute façon, il suffit que d'avoir un poste où ça marche. Donc, bien sûr, vous allez poster vous allez candidater à plein d'endroits, vous allez poster plein de candidatures spontanées, vous aurez peut-être qu'une réponse, mais si c'est la bonne, c'est pas grave.
Ultraviolette, ce qui me reste, on se retrouve après. À tout de suite.
Radio Notre-Dame.
Qu'est-ce qui me reste ?
Ce qui me reste, pourquoi pas me vendre? Comment se mettre en valeur pour trouver un emploi? Je plaisante bien évidemment, parce que cette expression est extrêmement employée. Vous le savez, on l'entend énormément, en tout cas utilisée. J'arrive pas à me vendre. On en parlait à l'instant tous les trois à bâton rompu. Noémie Lehmann, psychologue du travail, fondatrice d'Upchange Conseil Coaching. Libérez-vous des réflexes sexistes au travail chez Interédition, c'est votre livre. Fabien Sécher, porte-parole Jobs That Make Sense, le premier site d'emploi à impact positif. Et c'est vrai, revenons un petit peu à nos moutons, c'est souvent le cas dans cette émission, finalement, ce qu'on disait au début, je ne sais pas me vendre, on le dit, on l'entend partout, cette phrase, Noémie Lehmann, c'est terrible, je ne sais pas, comment veux-tu que j'ai trouvé un, je ne sais pas me vendre, je ne peux pas changer de poste, je ne sais pas me vendre, je ne veux pas demander d'augmentation, je ne sais pas me vendre, etc., etc., etc. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas
à d'abord, si on ne sait pas se vendre, on apprend, pour commencer.
Alors déjà, c'est ce que tu disais.
C'est ce que j'ai dit dès le départ.
Mais vous disiez qu'il y a un problème de valeur.
Oui, qu'est-ce qui freine? Qu'est-ce qui empêche? Qu'est-ce qui fait que je n'ai pas envie de me vendre? Pourquoi? Quelles sont les représentations derrière? Parce que bien souvent, derrière, il y a des représentations qui empêchent. Alors, la représentation, c'est lié avec l'argent. C'est-à-dire qu'on peut avoir des problèmes à gagner de l'argent. Puisque qu'est-ce qui se passe dans le fait d'en avoir ou d'en gagner en termes de représentation? Pour certains, c'est mal. Ça veut dire que ça va être de peut-être en voler à d'autres. Peut-être que ça veut dire d'échanger ses talents et ses compétences contre de l'argent. Pour les femmes notamment, il y a derrière des freins assez puissants qui sont liés, appelons les choses par leur nom, à la prostitution. Une femme qui vend ses talents, au niveau archaïque, au niveau des représentations, c'est un peu...
Il
faut travailler là-dessus, c'est qu'on va préférer des postures d'humilité, d'abnégation, de discrétion.
Il y a des hommes aussi comme ça, cela dit.
Oui.
J'en connais.
Oui, on en connaît.
Ça ne passe pas du tout.
Mais mais pour les femmes, la féminité stéréotypée, elle est plus dans un idéal d'humilité, de discrétion.
Les chiffres
et d'abnégation.
Les chiffres le disent.
Alors que pour se vendre, il va falloir avoir une posture un petit peu plus assertive. C'est-à-dire qu'il va falloir s'affirmer. C'est-à-dire dire j'ai envie au moins, j'ai envie de ce job-là, et oui, je voudrais qu'il soit pour moi, et pourquoi moi plutôt qu'un autre? C'est-à-dire qu'il y a un moment, un rapport de compétition. C'est-à-dire que décrocher un job, c'est un concours. Il n'y a qu'une place sur le podium.
On ne l'a pas assez dit.
Il faut la vouloir, cette place sur le podium. Ça veut dire qu'il faut accepter le jeu, et ce n'est pas contre ses concurrents. Ça ne veut pas dire qu'on va éliminer, au vrai sens du terme, ses concurrents. On va juste être le premier. C'est-à-dire qu'il y a derrière des blocages. Éliminer ses concurrents, être le premier, compétition, rapport à l'argent, être le premier ou la première, c'est selon. C'est-à-dire que pour certains, ça agite des valeurs ou des antivaleurs.
Et ça peut être un réflexe aussi. Alors peut-être, Fabien Cher, avez-vous une réponse à
ça? Oui, sur « je ne sais pas me vendre », on dit souvent ça. En fait, c'est plutôt derrière, c'est « j'ai pas envie de me vendre ».
Est-ce que j'allais vous dire,
j'ai plutôt envie qu'on m'aime pour ce que je suis et pas parce que j'ai vendu quelque chose, parce que ça serait sale de vendre, d'avoir un rapport transactionnel pendant l'entretien. Mais du coup, on n'a qu'à remplacer vendre par convaincre, parce que c'est ça, dans un entretien, c'est convaincre. Personne ne va dire « je ne sais pas convaincre ». Parce que là pour le coup, on ose moins le dire, et en tout cas, on ne l'érige pas en système de valeur. Parce que dire « je ne sais pas me vendre », presque on en fait une valeur, c'est « moi, je n'ai pas envie de me vendre, je ne sais pas faire ça, et de toute façon, je mérite mieux que ça, que me monnayer, quelque part ».
C'est vrai.
Donc on peut plutôt repartir sur la conviction et c'est comment je vais convaincre que je suis la bonne personne pour ce poste, que je vais apporter des solutions et que ce poste est parfait pour moi, que c'est vraiment le poste que je veux. Et là on sort de ce côté transactionnel, même si effectivement c'est très important aussi d'avoir un rapport très sain avec le sujet de l'argent, parce qu'on travaille quand même pour gagner de l'argent, sinon on ferait du bénévolat. Et du coup, c'est important aussi d'être très clair là-dessus et de se dire, moi, si je viens à cet entretien, c'est aussi pour gagner de l'argent et de ne pas avoir peur. Et je pense que pour les femmes, c'est encore plus difficile aussi de ne pas avoir peur de savoir combien on mérite pour ce poste et combien on va demander. Parce que dans l'entretien, il va aussi y avoir ce sujet qui est vraiment le top de l'horreur, c'est de négocier son salaire. Et ça va arriver
c'est
pendant l'entretien.
C'est le top de l'horreur,
Il faut apprendre à le dire, à le formuler, à dire combien on veut et ne pas avoir de complexe à gagner de l'argent.
Il faut dire combien on veut dans un entretien ou pas?
Quand on vous le demande, il y a un moment donné, on vous demande vos prétentions.
Et ça, c'est là où on peut peut-être un petit peu mentir
oui,
parfois.
Oui, j'ai l'impression de dire un gros mot là.
C'est là où.
Prétentieux peut-être.
Ah ouais. Non, je ne suis pas sur Radio Notre-Dame. Attention, nous parlons d'argent, mesdames et messieurs. Attention.
Non, mais c'est super important. Il faut être très, très honnête. Et on parlait de reconversion tout à l'heure. Nous, quand on accompagne des reconversions pour des personnes qui cherchent du sens, bah, parfois il y a un sujet de est-ce que je suis capable de baisser mon salaire ? Parce que ça peut aller avec.
Absolument.
Il faut être très clair et très honnête avec soi-même sur. À quel niveau je veux arriver, en dessous de quoi je ne veux pas aller, et ne pas avoir de posture de sacrifice sur je suis capable de diviser mon salaire par deux parce que ça a plus de sens. Ça pour le coup, ça n'en a pas beaucoup parce que ça ne va pas durer longtemps, cette affaire.
Est-ce que les réponses aux questions que je vous ai posées changent si on est senior et qu'on cherche un poste alors, une reconversion, on imagine que dans la plupart des cas, c'est quand même un petit peu ça, mais pas forcément non plus. Noémie Lemaine, avez-vous des exemples à nous raconter, des anecdotes à ce niveau-là et à ce sujet? Et est-ce, voilà, est-ce si différent que cela quand on est senior? J'imagine que oui, quand même.
Quand on est senior, on a davantage d'expérience à proposer. On se connaît mieux. On a l'avantage de la maturité, qui est un trait de personnalité intéressant. C'est que généralement, et pour la plupart des gens, avec plus de maturité, la maturité réduit l'impulsivité et augmente la hauteur de vue. Hein, ça veut dire que c'est
côté plus... rassurant.
Oui, ça rassure. Donc
le paquet là-dessus quand on.
Donc il faut assumer sa seniorité et la proposer comme une qualité.
Parce que vous savez comme moi que c'est un vrai sujet. On y a consacré, nous y avons consacré il y a quelque temps une émission. Comment trouver du boulot quand on a 50 ans et plus, c'est pas forcément facile déjà de garder son job et surtout d'en retrouver. Noémie Lemaine, c'est un sujet et c'est pas par hasard que c'est un sujet, c'est-à-dire que ça passe aussi évidemment par l'entretien dont nous parlons ce matin.
Oui, c'est vrai que c'est plus difficile pour les seniors, c'est vrai, mais ça veut dire aussi que là il y a une situation de vendre davantage ses atouts. Il faut assumer son expérience parce qu'on a des tas de choses à raconter quand on a 50 ans et on peut forcément aussi étayer les autres, c'est-à-dire qu'on peut être davantage soutenant pour une équipe.
Et le mettre en valeur.
Ouais,
Fabien, oui, je pense que c'est ça. Il y a le côté rassurant et le
vous
côté...
Vous en avez dans votre plateforme qui viennent vous voir, des seniors?
Il y en a moins, mais il y en a.
Ah,
il y en a de plus en plus aujourd'hui. C'est vrai que nous, on était plus au début sur les jeunes qui voulaient vraiment bosser pour la transition écologique et sociale. Et de plus en plus, on voit des personnes à partir de 35 jusqu'à 45, 50, 55 ans maintenant, qui veulent se reconvertir de manière volontaire ou subie parfois aussi parce qu'ils ont perdu leur emploi.
Ouais.
Et je pense que ce qui peut aussi apporter quelque chose en entretien quand on est senior, c'est de montrer qu'on va réduire un peu l'inconnu pour la personne qui va nous recruter, parce que nos expériences parlent d'elles-mêmes et montrent à la personne, mon CV, voilà toutes les expériences que j'ai, du coup je remplis peut-être plus 90% des missions que vous allez me proposer. Donc ça a un côté rassurant.
Ouais, ça c'est pour les seniors qui nous écoutent ce matin, qui sont peut-être justement en train de se poser la question comment est-ce que je vais affronter cette nouvelle vie qui m'attend, cette nouvelle étape dans ma vie. C'est vrai qu'on peut perdre aussi confiance en soi, Noémie, à cet âge-là. Et parfois est-il bon de, pourquoi pas là aussi, refaire un bilan de compétences comme si on avait 20 ans au fond.
Mais bien sûr, c'est important de faire un bilan de compétences à ce moment-là, de faire le tour de ses atouts. Mm. Parce que faire un bilan de compétences aussi, c'est apprendre à raconter l'histoire, puisqu'on va décrypter son histoire. On va
Qu'est-ce que je vaux déjà? C'est un peu ça finalement. Qu'est-ce que je vaux déjà?
Qui je suis? Qu'est-ce que je sais faire? Dans quelle expérience je me suis bien réalisée? Où est-ce que je me suis amusée? Qu'est-ce qui m'a plu? Qu'est-ce que j'ai apporté comme résultat constructif? Ou à quel moment on m'a dit super, bravo, etc. Revisiter tout ça, c'est important aussi parce que d'abord, ça permet de se regonfler le moral, de se dire on reprend connaissance avec ses succès qu'on a souvent oublié quand on a perdu le moral. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'a perdu. Donc, on fait
c'est
tout le tour de ça.
Basique,
et puis ensuite,
vrai.
À partir de là, eh ben, on peut construire un projet. Un ou deux ou trois projets. On a le droit d'avoir plusieurs projets, hein, bien entendu.
Est-ce qu'on met en valeur ces loisirs? Vous me faisiez penser à ça tout à l'heure. Ça, j'ai fait dans ma vie. Ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Je ne sais pas, un chemin de Saint-Jacques, une passion pour la rando, etc. Je sais pas. J'ai l'impression que ça fait un peu revu et revu et revu. Est-ce que c'est bon d'en parler l'un et l'autre? Enfin bien. Est-ce que c'est
moi je pense qu'il faut que ça apporte quelque chose. Il faut que ça apporte quelque chose, donc on le fait à bon escient. Mais moi, je vais prendre un exemple. J'ai fait, je pense, le pire, tout ce qu'on m'interdirait de faire en me coachant, c'est j'ai parlé politique. Alors, c'est vraiment souvent la ligne rouge, mais moi, j'ai fait de la politique avant et je me disais, c'est quand même un point important de ma vie et j'ai fait des choses et ça m'a apporté des choses. On parlait en gestion de projet, en prise de hauteur aussi sur pas mal de sujets. J'étais militant.
D'accord. Bah, pourquoi ? Mais c'est au contraire, c'est chouette.
Oui, mais en fait, souvent, on dit dans un entretien, ça peut être casse-gueule quelque part parce que du coup, on n'a pas le droit, on ne va pas me demander pour quelle partie je militais, mais en tout cas, les personnes vont se dire, bah, tiens, c'est un militant, on pense syndicalisme, ça peut être mal vu. Alors qu'en vrai, c'est super intéressant comme expérience.
Ou alors expérience. On le tourne différemment, on s'est engagé en politique. Ouais,
c'est ça, alors je pense, je tempérerai ça dépend peut-être aussi de ce qu'on veut faire. D'accord. Et de ce vers quoi on veut s'orienter. Mais moi je pense, on disait il ne faut pas mentir, je pense qu'il faut être honnête sur ses expériences aussi hors professionnelles à partir du moment où elles apportent quelque chose.
C'est ça, elles apportent quelque chose à l'entretien et donc...
Exactement.
Pour alimenter son histoire. C'est un peu ça.
Je suis d'accord avec vous, effectivement, il ne faut pas mentir, on n'est pas obligé de raconter toute sa vie non plus. Hein. Donc il faut raconter ce qui devient un argument.
Ce qui est utile pour
ce qu'on a effectivement à présenter au moment où on le dit. Donc ça dépend. C'est-à-dire que si on est par exemple un virtuose, un musicien, qu'on a vraiment des qualités exceptionnelles et qu'en rapport avec par exemple la créativité du poste, on peut faire des associations comme ça. Hein, si on fait comme tout le monde, on a lecture, tennis, et c'est pas la peine d'en parler. Hein. Hein, oui. C'est-à-dire que...
Non mais c'est important de préciser, je suis désolée.
Il ne faut pas mettre des centres d'intérêt pour mettre des centres d'intérêt sur son CV en se disant il en faut trois.
Ça n'a aucun intérêt.
C'est-à-dire qu'il faut travailler les loisirs également, la veille, enfin en tout cas avant ces entretiens, avant d'attaquer cette phase, il faut absolument aussi préparer. C'est important, n'empêche, moi on m'aurait dit ça, j'aurais pas fait tant d'erreurs si vous voulez. Mm. Bah oui. Parce que
c'est pas grave de pas en mettre.
On met tous tennis, gym, je sais pas quoi, et puis on s'en fiche pas en fait.
En fait, sur son CV, il faut se dire qu'il faut mettre ce qui va faire qu'on a envie d'en savoir plus.
À propos
de l'adéquation entre le poste et votre profil. Est-ce qu'on a envie de vous rencontrer pour en savoir plus ? C'est un peu comme une plaquette d'entreprise, en fait. Hein. C'est-à-dire que, est-ce que sur la plaquette d'entreprise, on raconte tout l'historique de l'entreprise quand on fait une démarche commerciale ?
Bien sûr que non. On met les valeurs,
ce qui est
un
attractif
peu,
pour l'autre. Hein. Oui. Exactement. Donc, c'est un peu comme ça. C'est-à-dire qu'on va mettre ce qui va donner à l'autre envie de vous rencontrer. Un CV, ça sert à vous rencontrer. Les entretiens, ça sert à avoir le premier entretien, ça sert à avoir un deuxième entretien, parce qu'on ne recrute jamais ce premier entretien. Et on recrute quelqu'un sur une série d'entretiens. On recrute une personne. On ne recrute pas un CV.
Ouais. Et il y a aussi le scoutisme familier de nos auditeurs, de certains de nos auditeurs, en tout cas... qui l'ont pratiqué ou qui le pratiquent encore, je ne sais pas. Fabien Sécher et Noémie Lemaine, est-ce que c'est quelque chose, là aussi, un peu touchy ? Est-ce qu'il faut... On hésite ? Est-ce que ça donne un espèce d'image cliché de la personne ? Ou au contraire, est-ce que c'est très bien d'en parler ?
Moi, je n'hésiterai pas, parce que je pense qu'il y a plein de valeurs derrière aussi, le scoutisme qui apporte, encore une fois, à partir du moment où c'est utile. Ça va dépendre de là où on postule, et en se disant... qu'est-ce que ça m'a apporté qui peut être utile dans le cadre de cet entretien-là, dans le cadre du futur poste auquel dans lequel je me projette.
Il y a toujours un aspect qu'on peut caser, à mon avis.
Tout à fait. Hein. Ouais.
Qu'on soit reconversion boulanger, reconversion, je ne sais pas moi, même dans tous les métiers, je pense qu'on peut tous se débrouiller pour que ça passe. Noémie Lemaine,
Ça dépend quel âge on a. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que si on est débutant et qu'on parle de son expérience de scout, ok, mais si on a 40 ans et qu'on illustre ses compétences en management par son expérience de scoutisme, ça fait léger quand même.
Ah ouais, il y a une limite quand même.
Oui, il y a une limite. Ça peut même devenir contre-productif. D'accord. Pourquoi il me parle de scoutisme alors que moi, je vais me demander de manager à des gens de 30 ans.
Sauf si on travaille, et c'est là où mon dernier point, on travaille la personne qui nous reçoit ou pas. Est-ce qu'on regarde sur LinkedIn avec nos moyens actuels un petit peu pour voir sentir un petit peu qui on a en face de nous.
Oui, ça fait partie de la préparation de l'entretien. C'est-à-dire, idéalement même, c'est-à-dire de regarder s'il y a des vidéos. C'est-à-dire que si on rencontre le DG d'une boîte ou le DRH, regardez si vous pouvez sur YouTube repérer des interviews. Parce que vous pouvez capter les choses,
ce qu'il
dit sur l'entreprise, sa personnalité, etc. etc. Oui, c'est important. Plus vous connaissez votre cible, plus vous connaissez votre interlocuteur, plus vous allez pouvoir faire le maximum pour vous aussi le séduire. Parce que c'est un exercice de séduction réciproque, mais c'est un exercice de séduction. Donc pour ça, il faut bien connaître l'autre.
Ouais, et trouver des points communs, du coup, potentiels avec,
coup, oui.
avec
si
la personne.
Si on y va, quoi.
Ouais, exactement.
Pas hésiter.
Sans faire trop, j'ai vu que sur LinkedIn, vous aviez, il y a 10 ans, posté ça, parce que là, c'est un peu... Ouais, on évite quand même d'aller à ce niveau-là. Mais par contre, si on peut trouver des points communs ou être interpellé par quelque chose ou inspiré parce que vous avez fait ça dans votre vie, ça peut être intéressant. Ça fait toujours plaisir et ça ne coûte pas grand-chose de le faire.
Le moi-je, il y a un moment donné, il ne faut pas non plus en faire trop. Il y a une limite, j'imagine, Noémie Le Maine. Se vendre, c'est bien, se mettre en valeur, point trop d'en faux. C'est-à-dire qu'il faut quand même aussi regarder...
En fait, on est en train de regarder une personne. Donc, moi, dans mes préparations d'entretien, j'entends des gens qui me disent « on a fait, on... » Je dis toujours « c'est qui, on ?»
C'est bizarre de dire « on ».
Ou même « nous ». Mais c'est qui, nous ? J'achète pas nous. Enfin, je veux savoir qui j'ai en face de moi. Donc, il faut apprendre à dire « je ». Et dépasser à ce moment-là les représentations qu'on a de « c'est de la vantardise, c'est prétentieux, oh là là, point trop, non, faut de parler de soi et de se mettre au centre
ouais. ».
Bah, c'est le moment. Hein.
C'est le moment de le faire.
Ça, c'est le moment de le
Alors
faire.
Allons-y.
Si on ne le fait pas là, à ce moment-là, c'est embêtant. Il faut jouer le jeu et il faut apprendre à le faire. Parce que souvent, si on ne sait pas du tout le faire, le jour où on va se lancer, on risque d'en faire trop, parce que ça va être l'excès, parce que souvent, c'est ce que j'appelle ma théorie du bâbord tribord. Quand les gens ne savent pas faire un truc et qu'on... Pouf,
boum,
ça va
être... Virage à 380, épouvantable.
Exactement, 380. Ça va être l'excès. Donc, il faut s'entraîner à parler de soi, à dire « je » avec un verbe derrière, hein, un verbe d'action, et avec une réalisation mesurée autant que possible.
Eh bien, je vous remercie infiniment, vous deux, Noémie Le Maine, Fabien Sécher, merci beaucoup, et sachez bien parler de vous, c'est important.
Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotredame.com.